Je vous invite à ouvrir donc la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse et nous allons relire le chapitre 5. Nous sommes au milieu donc de la deuxième partie de ce livre qui part du chapitre 4 et va jusqu'à la fin du chapitre 7, même le premier verset du chapitre 8. Au chapitre 4, nous avons vu l'apôtre Jean donc, qui entre dans le ciel, qu'il voit ce qui se passe au niveau du trône de Dieu. Et nous allons relire le chapitre 5. Verset 1. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. La dernière fois, nous avons vu le début du chapitre 5, et simplement pour vous rappeler les grandes lignes, nous avons vu que lorsque le livre, nous avons dit que c'est le livre de la volonté du dessein de Dieu pour l'histoire, que personne ne fut trouvé digne. Jean pleure, mais il reçoit le réconfort. Et nous avons noté que le réconfort, il ne reçoit pas d'un ange. Parce qu'un ange ne connaît pas la détresse du péché. Il reçoit le réconfort par un des vieillards, un de ceux qui représentent l'Église, qui connaît ce que c'est que d'être racheté de son péché, de sa perdition. Et ce vieillard dirige les regards vers le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau qui a été immolé, qui n'est autre que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Et ce matin, donc, nous allons continuer dans ce chapitre 5 et nous allons voir à partir du verset 8. Nous avons sans doute le plus grand événement que Jean décrit dans ce livre. Un événement qui justifie un cantique nouveau. Premier mot sur la feuille, cantique nouveau. Cet événement est l'ascension et l'intronisation du Seigneur Jésus-Christ après qu'il ait accompli son œuvre de salut. Et Jean voit le Seigneur Jésus-Christ s'approcher du trône et prendre le livre, ce livre donc que nous avons vu, qui décrit le plan de Dieu pour l'histoire, la volonté de Dieu pour toute l'histoire. Il, quand il eut pris le livre, verset 8, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, et ils chantaient un cantique nouveau. Ce cantique est un chant de rédemption, un célèbre qui parle de la mort, de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Dans le chapitre 4, rappelez-vous, nous avons déjà entendu un chant, mais un chant de la création. Verset 11, la création qui chantait « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » La création chante, la création, et le Seigneur reçoit l'adoration de la part de la création. C'est par ta volonté qu'elles existent, qu'elles ont été créées. Un chant, un cantique qui rappelle un autre chant que l'on trouve par exemple en Job 38 et au verset 7 qui parle des étoiles du matin qui éclataient en chants d'allégresse et ensuite que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Mais avec l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie, il y a une nouvelle raison de chanter. Il y a une nouvelle raison de louer notre Dieu. Un commentateur dit ceci, « Il chante un cantique qui est nouveau parce que jamais auparavant une telle délivrance n'avait eu lieu. Jamais l'agneau n'avait reçu un tel honneur. » Jamais il n'y avait eu une délivrance aussi grande. Et donc le chapitre 5 rajoute quelque chose au chapitre 4, de la même manière que la rédemption du peuple de Dieu, la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus-Christ, ajoute quelque chose de ce qu'on peut le voir de la gloire de Dieu dans la création. On peut voir quelque chose de la gloire de Dieu dans la création, mais la rédemption vient apporter une autre raison de le louer et de voir sa grandeur. Il est offert au Seigneur Jésus-Christ. Il s'adresse à Christ. Tu es digne de prendre le livre parce que c'est lui qui a racheté son peuple. C'est lui qui a accompli leur salut. Maintenant, il prend le livre du dessein de Dieu, de la volonté de Dieu pour l'histoire. Et il va contrôler l'histoire dans l'intérêt de ce peuple qu'il vient de racheter. À la fin de l'évangile de Matthieu, nous avons ce passage où il est dit que toute chose, tout pouvoir a été donné sur la terre et dans les cieux. Tout pouvoir lui a été donné. Maintenant qu'il a sauvé son peuple, le Père lui donne tout pouvoir et il va faire concourir toute chose au bien de ceux qu'il aime. Premier point que nous voulons souligner, c'est que Jésus, l'agneau, deuxième mot sur la feuille, est digne d'être adoré. Et le sujet, donc, est glorieux. Le sujet de l'adoration est glorieux. Le Seigneur est monté au ciel. Il a pris son règne. Au verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » La dignité du Seigneur Jésus-Christ est ici louée, non pas à cause de sa personne divine, mais à cause de l'œuvre qu'il a accomplie, une œuvre qui est parfaite. Nous avons des passages parallèles, par exemple en Hébreux chapitre 5 et au verset 9, « Après avoir été élevé à la perfection, Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Le Seigneur Jésus-Christ a toujours été parfait dans sa personne. Mais maintenant, il s'est qualifié pour être le sauveur de son peuple. Et c'est dans ce sens qu'il est devenu digne de prendre le livre, qu'il est digne d'être adoré. Les versets 9 et 10 que nous venons de lire donc, nous présentent un cantique, un troisième cantique de ce passage qui contient donc la louange des 24 vieillards. Les 24 vieillards, rappelez-vous, sont ceux qui représentent l'Église rachetée. Et ils chantent ce cantique parce que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice pour racheter son peuple de ses péchés. Le Seigneur Jésus-Christ est digne d'être adoré, comme l'Église le dit, comme les vieillards le disent, parce qu'il a été immolé. Troisième mot sur la feuille. Il a été immolé. C'est pas une tragédie comme certains le pensent, mais c'est un sacrifice volontaire. C'est parce qu'il a aimé son peuple qu'il s'est livré lui-même pour le sauver. Des philosophes aujourd'hui, par exemple, vont louer Socrate parce qu'il s'est soumis à une exécution, même une exécution injuste, mais il s'y est soumis par principe de loyauté. Mais nous avons une raison supplémentaire pour louer et adorer le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce qu'il est mort pour sauver son peuple. Il est mort pour moi. Il est mort pour me sauver. Ce n'est pas simplement par principe de loyauté, mais c'est pour sauver son peuple. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit à plusieurs reprises. Rappelez-vous ces passages en Jean chapitre 10. Je donne, verset 15, verset 18, je donne ma vie pour mes brebis. Personne ne me l'ôte, je la donne moi-même. C'est un acte volontaire, c'est un acte volontaire. Il donne sa vie pour les siens. Et si quelqu'un nous pose la question, qui est-ce qui a tué Jésus? La meilleure réponse, c'est simplement de dire que le Seigneur Jésus est allé volontairement à la croix. Il est allé volontairement à la croix par amour pour son peuple, parce qu'il est venu pour sauver ce peuple que le Père lui a donné. Tu es digne, chante le vieillard, de prendre le livre parce que tu as été immolé. Mais il est aussi digne d'être adoré à cause de ce qu'il a accompli par sa mort. Quatrième mot sur la feuille. Tu as racheté pour Dieu par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue. Et l'idée de racheter ici, c'est l'idée de payer une rançon pour un esclave, un prisonnier, pour le délivrer de l'esclavage, pour le libérer. Et nous avons l'essence de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix, par le sang qu'il a versé. Il a délivré son peuple de l'esclavage du péché, de la condamnation du péché. Dans l'histoire de l'Église, il y a beaucoup de commentateurs qui ont pensé que le Seigneur Jésus ici payait une rançon à Satan. Mais c'est une erreur, puisque le diable n'a jamais eu le droit de posséder le peuple de Dieu. Jésus a payé la justice de Dieu qui exigeait la mort comme la pénalité du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Genèse, même dans le livre de la Genèse, Dieu avait bien dit à Adam et Ève, le jour où vous mangez de ce fruit, le jour où vous péchez, vous mourrez. Jésus avait annoncé en Matthieu 20, verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de beaucoup. Et Paul pourra ensuite écrire en Éphésiens 1, verset 7, « En lui, en Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés. » Et donc, intéressant de noter, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'adoration de l'Église au ciel, les 24 vieillards au ciel, leur adoration est centrée sur le sacrifice de celle de Jésus à la croix. Cinquième mot sur la feuille. Et nous, sur terre, nous devons suivre leur exemple. Notre adoration, notre louange, quand on explique, quand on rend témoignage, cela doit être centré sur l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ce que Christ a fait à la croix pour sauver son peuple, pour nous racheter du péché et de la condamnation. Si on ne peut pas être fidèle à l'Évangile, si on oublie de parler de la mort et du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Les vieillards soulignent, les 24 vieillards soulignent la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il précise aussi de quelle rédemption il s'agit. Tu as racheté, à la fin du verset 9, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Pour qui Jésus a-t-il payé la rançon? Et on sait qu'aujourd'hui, il y a différentes interprétations. Certains vont dire, par exemple, que c'est pour tout le monde, que tout le monde est pardonné. Ce sont les universalistes, même ceux qui ne croient pas dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde. Ce qui est bien sûr pas le message de la Bible. D'autres vont dire que le Seigneur est mort pour tout le monde, mais qu'il offre son salut, c'est-à-dire qu'il offre son salut. Et seuls ceux qui l'acceptent peuvent bénéficier de l'œuvre accomplie à la croix. On parle de rédemption universelle, elle est associée avec la théologie qu'on appelle arminienne, mais encore cette perspective est en conflit avec ce que dit la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu dit, les vieillards chantent un cantique, ils disent que le Seigneur Jésus-Christ non pas permet le rachat, ou ouvre la possibilité de rachat, ou va racheter, mais il a racheté. C'est fait, c'est accompli, c'est fait, c'est terminé, tout est accompli, c'est le Christ sur la croix. Il a racheté, c'est le sixième mot sur la feuille. Il a racheté, il est mort pour ceux, pour son peuple. Il les a délivrés de l'esclavage. Et ils ont été délivrés de manière effective, c'est fait. Ils ont été rachetés, Jésus les a rachetés. Et les vieillards précisent, ils ne disent pas que Jésus a racheté toute tribu, toute langue, tout peuple. Mais il a racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Il a racheté des personnes en particulier qui viennent de tous les coins de la terre. Il a racheté les élus. Il a racheté ce peuple que le Père lui a donné. C'est la rédemption particulière, limitée, cette vérité redécouverte à la réforme. Christ n'est pas mort pour rendre le salut possible. Il est mort pour son peuple. Il est mort pour sauver son peuple, pour sauver ce peuple, racheter ce peuple que le Père lui a donné de toute éternité. Et là, on reprend des passages en Jean 17, par exemple, ou Éphésiens 1. Par la rançon que le Seigneur Jésus-Christ a payée, ce peuple est réellement racheté, effectivement délivré. Ces personnes viennent à croire parce que l'Esprit Saint applique les bénéfices de leur rédemption par le don de la foi. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Et donc, ce passage nous rappelle et nous enseigne une rédemption particulière, une rançon qui rachète avec succès. Ce n'est pas simplement une possibilité, c'est un rachat avec succès. Tu as racheté pour Dieu. Les croyants ne sont pas rachetés parce qu'ils ont cru, mais les croyants croient en Christ parce que par son sang, il les a rachetés pour Dieu. Et l'Esprit applique cela dans les cœurs. Le Fils, donc, est digne d'être adoré. Cela nous amène au deuxième point. Ce peuple que le Fils a racheté, et de manière effective, il a été racheté pour l'adoration. Septième mot sur la feuille. Les vieillards continuent au verset 10. « Tu as fait d'eux de ce peuple, de ces hommes rachetés, issus de toutes les tribus, tous les peuples, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. » Donc le but de notre salut en Christ, c'est d'être un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ce chant des vieillards que nous avons ici est un chant de restauration. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour être un roi, pour être un sacrificateur au service de Dieu. Mais Adam a perdu ses fonctions par sa chute dans le péché. Et puis ensuite, nous lisons en Exode 19 que Dieu avait établi Israël pour être un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Dieu avait appelé Israël à part pour vivre selon sa volonté, en obéissant à sa parole, pour porter un témoignage aux autres nations, pour être une lumière dans ce monde, pour être comme des sacrificateurs pour Dieu. Qu'a fait Israël? Au lieu de cela, Israël s'est détourné de la parole pour suivre les idoles des nations qui l'entouraient. Mais là où Adam a failli, là où Israël a failli, le Seigneur Jésus-Christ a triomphé. Il a eu le succès non seulement par son propre ministère en tant que roi, en tant que roi des rois, en tant que souverain sacrificateur, mais il a aussi fait de son peuple un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Huitième mot sur la feuille. Il a fait de son peuple. C'est quelque chose qui est fait. Ce n'est pas futur. C'est fait. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ce message, donc, est excitant. Surtout quand on se rappelle que l'ensemble du peuple de Dieu est entièrement composé de pécheurs qui sont maintenant rachetés. Des pécheurs autrefois condamnés qui maintenant peuvent dire qu'il n'y a plus de condamnation parce qu'ils sont en Jésus-Christ. Et l'Église et les 24 vieillards ici ne proclament pas sa propre dignité, mais proclament la dignité du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est digne. Ce n'est pas l'Église. Nous célébrons sa dignité en nous rappelant, par exemple, que le Seigneur Jésus va laver et pardonner des prostituées comme cette femme qui a oint ses pieds en Luc 7. Il pardonne des meurtriers comme Moïse, comme David. Il pardonne des persécuteurs arrogants comme Paul. Et Paul, dans 1 Corinthiens 6, versets 9 et suivants, va parler d'autres personnes. Il parle de débauchés, d'idolâtres, d'adultères, d'efféminés, d'homosexuels, de voleurs, de cupides, d'ivrognes, d'outrageux, de ravisseurs. Ensuite, il continue, mais vous avez été lavé. Mais vous avez été sanctifié. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Un commentateur dit ceci: « Il n'y a rien de ce que nous avons fait dans notre vie qui soit mauvais, indigne, méchant, sale ou impur, qui ne pourrait nous disqualifier de faire appel au sang de l'agneau. Nous sommes invités à chanter le même chant qu'il chante au ciel. Tu as fait des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. » Vous avez noté, je pense, que royaume est au singulier et sacrificateur est au pluriel. Jésus a fait un royaume qui est constitué de sacrificateurs. L'Église est sous le règne de Christ. Et donc il faut enseigner sa vérité. Nous devons le suivre, lui. Nous devons offrir sa grâce, son salut. L'Église du premier siècle ne devait pas se plier aux demandes de César de l'adorer ou s'accommoder aux demandes de la culture païenne. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Nous ne devons pas défendre les positions du gouvernement si elles sont contraires à la parole de Dieu. Nous devons, au contraire, servir le royaume de Dieu dans un rôle de sacrificateur. Les 24 vierges, on le voit verset 8, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfum, qui sont les prières des saints. Ils adorent donc le Seigneur Jésus en chantant un cantique de rédemption, un cantique nouveau, tenant un genre de petite harpe que l'on retrouve, par exemple, dans l'Ancien Testament, dans le psaume 33. Et ils offrent des prières devant son trône. Une belle image de l'adoration de l'Église dans la gloire. Juste une petite précision ici, parce que ce verset 8 soulève un petit problème pour certains, et qui donc interprètent différemment. Parce qu'il y a les quatre êtres vivants et les 24 vieillards qui se prosternent devant l'agneau. Et le problème ensuite, il est soulevé ici, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies des parfums qui sont les prières des saints. Nous avons dit que les quatre êtres vivants sont les archanges qui représentent aussi, de par les visages, les symboles qu'ils portent, représentent toute la création. Et que les 24 vieillards représentent l'Église, Ancien Testament et Nouveau Testament. Mais le problème est vite résolu, dans le sens qu'on doit se rappeler qu'on a, nous, une traduction française et qu'on n'a pas toutes les nuances de l'original en grec. Parce que le participe tenant, ici, est au masculin pluriel et il s'accorde avec les 24 vieillards, qui sont au masculin pluriel, les quatre êtres vivants sont au neutre pluriel. Donc ce sont les 24 vieillards qui tiennent chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfum qui sont les prières des saints. C'est l'Église qui tient une harpe et des coupes d'or remplies de parfum. Ceux qui représentent l'Église. Le nombre 24, comme j'ai dit, est une allusion à l'ensemble de l'Église, Ancien Testament 12 et 12 Nouveau Testament. Mais on a aussi, on peut retrouver un parallèle en 1 Chronique 25, où David dénombre ceux qui doivent servir dans le temple. Et ils sont au nombre de 24 groupes. 24 qui servent dans le temple, et c'est ce que nous sommes, nous, appelés à être, donc, et c'est ce que nous sommes, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait de nous, des sacrificateurs pour notre Dieu. Nous aussi, donc, comme les vieillards se prosternent devant l'agneau, nous sommes appelés à l'adorer avec piété et crainte. Et le symbole de l'harpe est un symbole qui montre que l'adoration n'engage pas seulement l'esprit, mais aussi les sentiments, les émotions. Et les coupes d'or qui représentent les prières des saints rappellent que dans le temple, l'encens était brûlé quotidiennement. Et nous aussi, nous sommes appelés à tenir nos coupes et à prier sans cesse. Au chapitre 6, nous allons voir que les jugements de Dieu vont tomber sur les méchants en réponse aux prières de son peuple. Mais ici, c'est plus général. C'est la vie de prière de son peuple, de l'Église. Et la prière n'est pas seulement composée de demandes, de requêtes, mais la prière est aussi, comprend aussi l'adoration. Nous lui prions, nous l'honorons en le remerciant pour ce qu'il a fait, mais aussi en priant pour son intervention à venir. Mais les vieillards louent le Seigneur Jésus-Christ non seulement parce qu'il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, mais aussi parce qu'ils régneront, dixième mot sur la feuille, ils régneront sur la terre. Beaucoup de débats concernant le moment de ce règne, on va pas en rentrer dans les détails, mais certains vont affirmer que cela parle du futur, que cela va se passer dans le millénium, une période de 1000 ans, littéralement. Une période qu'ils disent est une période où l'Église régnera avec puissance sur la terre avant la défaite finale de Satan. Ils disent que cela ne peut pas décrire les croyants sur terre aujourd'hui parce qu'on ne les voit pas régner sur la terre. Mais, comme nous l'avons souligné, l'Église est décrite aujourd'hui comme un royaume. Le Seigneur Jésus-Christ, les vieillards, pardon, ne disent pas que le Seigneur Jésus-Christ va faire d'eux un royaume. Il a fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Et l'Église, donc, règne. Elle règne aujourd'hui, elle est sous le règne de Christ, mais elle règne sur la terre par leur obéissance à la parole, par leur prière, par la proclamation de l'Évangile. Rappelons-nous que le royaume de Dieu, le royaume du Seigneur Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit, « Mon royaume n'est point d'ici-bas ». Notre autorité, l'autorité que nous avons, est bien plus forte que l'autorité de ce monde. On peut penser à tous ces événements, je pense en particulier à la réforme. Martin Luther, ce n'est pas depuis un palais qu'il a commencé, ou qu'il a été utilisé pour débuter la réforme. Mais c'est depuis la chair, depuis un pupitre, par la proclamation de la vérité. Notre autorité est plus grande. Mais cela nous amène donc à un deuxième point, c'était un peuple qui a été racheté pour adorer, pour l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous amène au troisième point, même la création tout entière, onzième mot sur la feuille. Même la création tout entière s'élève dans l'adoration. Après l'adoration des quatre êtres vivants et des 24 vieillards, nous avons les anges, verset 11. « Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé » est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Le nombre important d'anges décrit ici comme des myriades de myriades et des milliers de milliers, c'est vraiment pour souligner que c'est une foule immense, c'est une armée immense d'anges qui est dans le ciel pour faire la volonté de Dieu. Mais ce qui est à noter, c'est que l'adoration des anges vient après l'adoration de l'Église. 12e mot sur la feuille. L'adoration des anges vient après l'adoration des 24 vieillards. Parce que c'est au travers de l'Église que les anges découvrent la gloire de l'œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ. C'est à travers de l'Église que les anges comprennent. Pierre écrit cela, par exemple, dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 12. Il décrit les vérités de l'Évangile comme étant les choses dans lesquelles les anges désirent plonger leur regard. Comment des pécheurs peuvent-ils être réconciliés avec Dieu? Par le Seigneur Jésus-Christ, qui a été immolé, par l'agneau qui a été immolé. Et maintenant que les anges voient, qu'ils voient la gloire de l'œuvre du Christ dans, à travers l'Église, à travers les chants de l'Église, à travers la louange de l'Église, l'armée céleste apporte sa propre louange. Verset 12. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Et ils décrivent sept éléments dans leur louange. Et en fait, ce que les anges font, c'est qu'ils attribuent à Christ ce qui revient à Dieu. Ils attribuent au Fils ce qui revient à Dieu. Il est digne, l'agneau qui est immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Encore une fois, dans le grec, la liste des sept mots, il n'y a qu'un seul adjectif défini. Il commence par la puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Il n'y a qu'un seul, ça forme une seule liste qu'on ne peut pas séparer. C'est un ensemble. Et l'adoration des anges, donc encore une fois, est en réponse à ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli par sa mort sur la croix. Et leur témoignage montre que ce qui pouvait être considéré comme une défaite est en fait une victoire. Ce qui était considéré comme une faiblesse est en fait la puissance de Dieu. Cette croix, au lieu d'apporter la pauvreté, elle apporte les richesses. Aux yeux du monde, cette croix est une folie, mais aux yeux de Dieu, elle a la sagesse. Et au lieu de l'humiliation, c'est le plus grand honneur. Au lieu de la disgrâce, la croix révèle la grâce de Dieu en Christ. La croix était là pour le châtiment du péché, mais elle a été le lieu où le salut a été accompli pour ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ. L'agneau qui a été immolé est digne. C'est ce que chantent les anges. Et se joignent à l'Église. Mais l'adoration ne se limite pas à l'Église et aux anges. C'est toute la création, 13e mot sur la feuille, toute la création qui se joigne aux anges et à l'Église pour louer Dieu et l'agneau. Verset 13. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer. Et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, donc à la croix, va s'étendre jusqu'à toute la création. Les anges comprennent la gloire de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ en entendant l'adoration de l'Église. Mais cette rédemption que le Seigneur Jésus-Christ a faite de son peuple, de l'Église, va aussi libérer la création de toute la malédiction du péché. Ici, on a le Créateur et le Rédempteur qui sont loués par leur créature. Toute la création loue le Créateur et le Rédempteur, et se joint au peuple de Dieu, se joint à l'Église pour louer celui qui est assis sur le trône et pour louer l'agneau. C'est pour ça que nous avons été créés. C'est pour ça que Dieu a créé toutes choses. C'est pour ça que toutes choses ont été créées pour louer Dieu, pour le louer. Et ce but est atteint quand l'Église est dans la gloire. Paul va le dire, par exemple, en Romains chapitre 8, versets 19 à 21, il dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et ici, donc, toute la création, toutes les créatures se joignent aux anges et aux 24 vieillards et aux 4 êtres vivants pour louer Dieu, pour louer celui qui est assis sur le trône et pour louer l'agneau. Une dernière chose, le quatrième point, c'est que l'agneau qui est sur le trône, qui est souverain, qui a pris ce livre et qui va accomplir et contrôler l'histoire pour le bien de son peuple, il est souverain, mais il est aussi bon. 14e mot sur la feuille. Quand on se rappelle les circonstances dans lesquelles Jean écrit cette lettre, on se rappelle qu'il s'adresse à des églises qui sont faibles, des églises qui sont menacées, qui doivent se préparer à la persécution qui a déjà commencé dans certaines églises. Et cette vision de l'adoration dans le ciel va rappeler à ce peuple, va rappeler à ces églises que ce n'est pas César qui règne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et que l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ a accomplie à la croix est une œuvre qui a sécurisé la destinée de son peuple. Et que dans ce salut, il y a non seulement la destinée, mais aussi tout le parcours, tout ce qui entre, c'est-à-dire que Dieu va faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Et ce chapitre conclut avec la dernière réponse, la seule réponse possible. Et les quatre êtres vivants, verset 14, disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. C'est de cette façon que l'Église doit répondre en ajoutant leur propre « Amen » dans la foi, dans la confiance, dans le règne souverain du Seigneur Jésus sur l'histoire, et qu'ils doivent remplir leur rôle de sacrificateur en le louant et en l'adorant. Jésus est sur le trône, comme nous l'avons dit. Il est souverain. Tout pouvoir lui a été donné. Ce n'est pas César qui règne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est pas seulement souverain sur l'histoire. Il est aussi celui qui, quand il prend le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, pour venir réaliser la volonté de celui qui est assis sur le trône, il est aussi celui qui est venu mourir pour son peuple. Et en cela, il montre son amour, il montre qu'il aime son peuple. 15e mot sur la feuille. Il aime son peuple et il a donné sa vie pour son peuple. Et donc, s'il est souverain et s'il est aussi celui qui aime son peuple, nous pouvons lui faire confiance pour tout ce qu'il va amener dans l'histoire pour nos vies personnelles. Il est souverain sur l'histoire dans son ensemble, dans les grands événements, mais il est aussi souverain dans nos vies personnelles. Et il permet Il envoie toutes choses, il fait toutes choses, concourir toutes choses pour notre bien dans nos propres vies. Parce qu'il est un sauveur et un Seigneur qui est bon. Seigneur Jésus-Christ est sur le trône. Il a racheté son peuple par son sang. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Et nous le servons déjà sur terre. Et en sachant que le Sauveur qui nous aime est celui qui règne sur toutes choses, nous pouvons donc avoir confiance en lui pour ce qu'il va nous apporter dans nos vies, ce qu'il va apporter dans l'histoire. Et nous pouvons aussi continuer l'œuvre qu'il nous a donné de faire en tant que sacrificateur pour Dieu, à le louer, à chanter ses louanges et à proclamer sa parole. Nous ne devons pas être effrayés par les vents changeants que nous voyons dans ce monde, par les menaces contre l'Évangile. Non, le Seigneur Jésus-Christ est souverain. Il règne. Il règne sur toutes choses. Il règne pour le bien, 16e mot sur la feuille, pour le bien de son peuple, pour notre bien et pour la gloire de son propre nom. Que Dieu donc nous aide à remplir, à vivre notre vocation de souverain sacrificateur pour Dieu. Qu'il nous aide à remplir notre rôle d'adorateur, de témoin, mais qu'aussi nous usions de tous ces privilèges que nous avons et que nous soyons de ces sacrificateurs qui nous présentons devant lui dans la prière constamment, jour après jour, dans la prière pour l'avancement du peuple de Dieu, l'avancement du royaume, la proclamation de l'Évangile, mais qu'aussi nos prières soient remplies de louanges et d'adoration envers celui qui est d'autre que le Fils de Dieu, l'agneau qui a été immolé pour nous et qui a fait de nous, qui nous a rachetés et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu, pour notre Dieu, pour son Père. Que Dieu donc nous aide à le vivre et à remplir cette vocation et qu'il nous aide à être toujours remplis de plus en plus de louanges et de reconnaissance pour ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Amen.